France Inter.fr.
14h05, on retrouve CO2, mon amour, avec notre vieil ours Denis Chessot.
Mais oui, absolument, aussi 50 ans, mais qui est encore en pleine forme, vous voyez, donc oui, c'est plutôt pas mal, voilà. Et puis je constate qu'effectivement qu'à Istanbul, ça rigole pas, hein. les écologistes, c'est quand même du chaud. On vous retrouve pour les informations de 15h, Dominique.
Ça se reconnaît un écologiste.
Les quotas de thon rouge.
L'hydrogène aujourd'hui ne sert à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2.
Sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 ans.
Denis Chessot.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine de nature et d'environnement, dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie. Avec aujourd'hui la technique Sandrine Laurent et Fabien Laléouze, et assisté de Stéphane Combes, c'est Christophe Imbert qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur pour débuter. Les lapons sont contents. Bah oui, il fait 25 degrés au cercle polaire. Le Père Noël se dort donc les biceps en Ray-Ban sur son balcon, en sifflant les naïades qui descendent sur la plage en bikini. Les reines ont remisé les manteaux de fourrure et sortent broutées dans la luzerne en short. Alors de quoi se plaint-on? Bah c'est vrai qu'on ne pense pas assez aux lapons. Et ça fait longtemps qu'ils roulent en reine ou en bicyclette sur la toundra et qu'ils nous invitent à faire de même cette semaine, ce week-end, puisque c'est la fête du vélo en France. Oui, vous n'avez pas rendu compte, mais c'est quand même le cas. Est-ce que vous connaissez un meilleur moyen de locomotion, inventif, silencieux, propre, économique, convivial, rapide en ville, qui fait tourner les neurones aussi bien que les jambes à l'énergie humaine? Hein? Il y en a d'autres? Alors c'est promis, demain il fera bio, le soleil va sortir de sa couette et regarder un peu vers le bas si son élevage de grenouilles frigorifiées, c'est-à-dire nous tous, n'a pas perdu le moral. Remarquez, il était temps parce que le peuple est dans la rue, en bottes de caoutchouc, il gronde et l'ami Jacques Kessler qui a décidé de prendre sa retraite parce qu'il en a assez qu'on lui jette des pierres dès qu'il ouvre la bouche. Alors parmi le florilège d'animation de la fête du vélo, donc il y a la Via Rona. La Via Rona, c'est un itinéraire cyclable de près de 700 km qui relie le lac Léman à la Méditerranée, qui traverse trois régions. 100 000 promeneurs et cyclistes y sont attendus chaque année. 100 000, c'est presque la place qu'ils admettent, qui est aujourd'hui recouverte de voitures. La région Rhône-Alpes accompagne ce projet depuis 2005. Et sur les 415 km de la Via Rona qui traverse la région, se succèdent des réserves naturelles, des paysages viticoles, des berges urbaines, patrimoine industriel historique, quelques centrales nucléaires bientôt à démanteler qui fabriquent des nuages. Bref, c'est l'opportunité d'allier sport, balade, culture et surtout, enfin, de prendre le temps. Alors, tout au long de la journée, vous avez des bases de loisirs qui mettent à disposition des vélos, des rollers, etc. Et étrangement, les pédalos ne sont pas prévus. Bah, c'est comme ça. Alors, bien sûr, la Via Rona est plus proche du jour de fête de Jacques Tati que du Tour de France, ce qui n'est pas plus mal. Il vous évitera d'emporter de l'EPO dans les pharmacies, mais absolument. Alors, un œil sur le paysage et l'autre sur vos mollets, pour quelques heures, vous éloignerez l'homo automobilis qui grignote l'homo sapiens. Et donc, demain, vous sortez votre vélo, votre tandem, votre grand bi, que sais-je, et vous poursuivrez ensuite peut-être avec le vélo en ville si les aménagements existent. Et cela vous noircira beaucoup moins les poumons qu'un embouteillage, absolument. Toutes les pistes cyclables ne mènent pas encore à Rome, mais silencieusement, elles le feront. Bientôt, le vélo, jamais démodé, est à la pointe de la modernité sans âge et bientôt, la Vélorution sera en route. Au menu de cette émission, 4 chapitres. Alors, un reportage que je vais intituler « Le verger, la mésange et la chauve-souris ». Autrement dit, des arboriculteurs éleveurs de pommes demandent aux mésanges de faire le travail ainsi qu'aux chauves-souris. Donc, ils mettent beaucoup moins de pesticides qu'avant. Il y aura une actualité avec Nathalie Fontrelle. Il y aura aussi ce garçon.
Notre ferme, les Jardins de la Grelinette, un de ses faits d'armes, c'est qu'on est rentable sur moins d'un hectare. Puis depuis la première année de notre établissement.
C'est un jeune garçon maraîcher, donc vous l'avez compris, qui vient du Québec et qui s'appelle Jean-Marie Fortier, qui va nous faire part un peu de ses différentes réflexions. Et puis, ça faisait un certain temps qu'on ne l'avait pas entendu, mais oui. Et le voici, un pommier de pommes à la main. Bonjour Jean-Marie Palt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Et elles ne sont pas empoisonnées, vous n'êtes pas la sorcière de Blanche-Neige.
Non, pas du tout, mais j'ai beaucoup aimé Blanche-Neige.
Bien sûr.
Premier film que j'ai vu de ma vie.
Quand même, ça vous a
oui,
un peu trop.
Mais
c'est ça, après le traumatisme. Bon. Alors, héros d'humanité, et dans cet ouvrage chez Flammarion, un personnage que je ne connaissais pas, qui s'appelle Emak Djangaliev, et le jardin d'Éden. En fait, c'est Catherine Peix qui a tourné un film qui s'appelle Les origines de la pomme. Ben, on part du côté du Kazakhstan. Alors, on est en plein stalinisme, hein, faut le dire, avec cet homme-là, donc présentez-le-nous.
C'est un homme qui s'est mis à l'époque de Staline du mauvais côté. Il était biologiste et il était partisan du darwinisme,
ah oui.
Donc de la biologie occidentale. Et il avait contre lui le fameux Lysenko et toute la bande des agronomes russes de l'époque qui niaient absolument la génétique. Donc il a été mis en prison. On l'a empêché de faire son métier d'agronome. Finalement, il a abouti dans un orphelinat à Alma-Ata, c'était une des très grandes villes du Kazakhstan, ça veut dire la cité des pommes, et là il s'est intéressé aux pommes. Pourquoi aux pommes ? Là dans le film de Catherine Peix, on voit des choses extraordinaires, on voit une forêt vierge de pommiers.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait la vision des Européens, ce sont des vergers, les pommiers, où chaque arbre est distant de son voisin, avec une même forme, une même taille.
Oui, ça c'est chez nous,
voilà.
C'est en Normandie.
C'est ça.
Mais là c'est pas du tout ça, là c'est des pommiers, les uns ont 30 mètres, les autres en ont 4, ils sont imbriqués les uns dans les autres, ils poussent dans tous les sens, il y a des lianes qui montent dessus. Par contre, par terre, il y a plein de pommes, énormément de pommes. Et ce sont des pommiers sauvages. Et ce sont des pommes qui ne sont pas des toutes petites pommes, ce sont des grosses pommes.
J'ai vu 350 grammes.
Hein, oui.
Et un arbre peut produire 700 kilos.
Oui. Alors j'ai vu des images sur ce film précisément. Alors ces pommes, comment sont-elles devenues aussi grosses ? Ben, il a trouvé le mystère.
Les OGM.
Pas vraiment.
Ah bon.
Pas vraiment. Non, il a vu que les ours bruns, sauvages, mangeaient les plus grosses pommes et les pommes les plus sucrées. Et que les pépins passaient à travers leur intestin. Et donc les pépins étaient ramollis et ils germaient, après dans les matières fécales, ils germaient mieux que les pépins qui n'avaient pas traversé l'intestin des ours. Donc les ours ont sélectionné les plus grosses pommes et les meilleures pommes. Ils ont fait un choix intelligent. Pour nous, nous l'avons bénéficié de ce choix, et c'est comme ça que ces pommiers sont devenus des arbres dont on pense que c'est l'ancêtre de pratiquement toutes les pommes, de pratiquement tous les pommiers, qui viennent tous de cette forêt du Kazakhstan.
Mais ces pommes, elles ont une particularité.
Oui, elles n'ont pas de tavelure, elles n'ont pas de parasites, elles ne sont pas pourries, elles sont en très bon état, et leur peau est luisante. Alors on s'est aperçu aussi qu'elles résistaient à toutes les maladies des pommes. L'université Cornell, qui est une des grandes universités agronomiques de New York, a constitué avec M. Djangaliev, précisément, un jardin conservatoire des différentes variétés génétiques de ces pommiers où on va les croiser avec nos pommes. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que nos pommes, celles qu'on achète dans les magasins, ont été arrosés entre 20 et 30 fois par des pesticides.
Oui, j'allais dire, cet homme-là est un cauchemar pour les fabricants de pesticides.
C'est une catastrophe, parce qu'on va croiser nos pommiers, qui sont très fragiles et qui attrapent toutes les maladies du monde, avec ces pommiers-là qui n'attrapent aucune maladie. Et on espère obtenir des pommes qui soient résistantes. Et alors, on n'aura plus besoin de les arroser 20 à 30 fois. Et par conséquent, quand on mangera ces pommes, qui sont les pommes du futur, eh bien, on ne prendra pas les pesticides qui vont avec.
Alors c'est bien qu'on ait fait ce croisement, parce qu'il nous reste une quinzaine d'ours, si vous voulez, dans les Pyrénées. Donc, à mon avis, ce n'est pas forcément suffisant, parce qu'au départ, il fallait des ours. Hein, c'est...
Oui, il fallait des ours.
Ah, alors aussi, une petite question, Jean-Marie. Pourquoi, en fait, on nomme les pommes malus en latin ?
Ah, c'est une très belle question. Parce que vous vous souvenez que dans l'histoire du Jardin d'Éden, Ève et Adam ont croqué la pomme. Ben non, ils n'ont pas croqué la pomme. Enfin, d'abord, c'est des êtres mythiques. Et ensuite, il n'est pas dit dans la Bible qu'ils ont croqué une pomme. Il est dit dans la Bible en latin qu'ils ont croqué un fruit. Et le fruit en latin, c'est pomum, en l'honneur de la déesse des fruits qui est Pomona. Et la pomologie, c'est la science des fruits. Or, la pomme, effectivement, en latin, c'est malus. Alors, on pense, l'auteur du nom, c'est Linné, avait dans l'idée qu'Adam et Ève avaient croqué une pomme.
D'accord.
Et donc, il a dit, c'est comme ça que le mâle est rentré, je vais l'appeler Malus. Et cette interprétation tient bien la route, parce qu'il a baptisé une variété Malus paradisiaca, donc le mâle qui est dans le paradis. Alors, il y a une autre histoire encore, c'est que pour les anciens gréco-romains, il y avait au-delà de Gibraltar, vers l'Atlantique, un immense jardin qui était le jardin des Hespérides, où des personnages dépendants de la déesse Héra cultivaient les pommes d'or. Et quiconque mangeait la pomme d'or devenait éternel. Or, dans le Jardin d'Éden, il y a l'arbre de la connaissance, celui qui donne les pommes, et puis il y a l'arbre de la vie éternelle, l'arbre de vie. Et cet arbre de vie est en relation avec l'arbre du Jardin des Hespérides. Et il est possible aussi qu'on a transféré sur les tableaux, par exemple, de la Renaissance, quand on voit Adam et Ève, on les voit avec une pomme, et que cette pomme serait la fameuse pomme d'or des Hespérides qu'on a judéo-christianisé en quelque sorte à la Renaissance.
Alors merci Jean-Marie de nous avoir présenté cet homme, donc Aymac Jean Galief, que l'on retrouve dans cet ouvrage « Héros d'humanité » chez Flammarion. Merci Jean-Marie, à bientôt.
À bientôt, au revoir à tous, au revoir Denis.
Et croquez bien. Voilà.
Et croquez bien les pommes, il y a d'ailleurs des assos qui s'appellent croqueurs de pommes.
On va rester dans le sujet, hein, un petit peu dans quelques instants. Deuxième volet, c'est avec le verger, la mésange et la chauve-souris. J'espère que vous allez bien.
Parfois la nostalgie qui colle au marronnier des cours, des écoles, les méga bastons de marron qu'on attendait arrivaient et ça démarrait, les coups pleuvaient. Ivre de joie, plein de folle énergie, on se lançait dans les gencives des cinquantiers de marron qu'à côté de nous les boxeurs, c'était des piètres amateurs. On jouait à Zorro, à Poulidor, à Paul Newman, à Genesis, à Spider-Man. Le verlan arrivait tout juste à peine pour chasser le vilain louche, même qui déformait les sons qui sortaient de nos bouches. Nous on parlait l'argot, l'arabe et l'homme manouche. Les joutes verbales nous emballaient et tout le monde entrait avec qu'il fallait deviner ce que ça voulait dire. Et celui qui gagnait, c'était celui qui comprenait. C'était pas de la langue, de moi tout ça. Ça brûlait bien plus encore. Pas de la mode, du style ni du blabla. Pas du langage mais du sport. On jouait à Zorro, à Poulidor, à Paul Newman, à Genesis, à Spider-Man. Pas de déclaration d'amour aux saucisses au lieu de sapin, nous on leur cinglait les cuisses avec du végétal. Car nous on avait des futales, elles se mangeaient en nous balançant des gros cartables qui finissaient éventrés vides sous les tables. C'était le début de la SM, pour nous ça voulait dire je t'aime. Puis on s'embrassait, à l'époque où les cerises tombaient, on ne jouait plus à Zorro. On jouait au docteur, jamais au téléphone sans fil, et pas encore à Tchernobyl. Désespérée par nos jeux de gamin, au commissaire Maigret, au rugby à Tintin, comment ne pas tous nous haïr. Elle voulait juste grandir. Moi j'ai tout fait pour éviter les premiers rendez-vous où il aurait fallu avouer que j'étais meilleur au football, à la balle, aux prisons, que pour lui rouler des palos. On jouait à Zorro, à Poulidor, à Paul Newman, à Genesis, à Spider-Man. Puis d'un seul coup, quand on devient majeur, on vote, on s'aime, on s'accepte très tôt chômeur. Mais on trafique déjà les fiches de paye pour louer un appart à Marseille, à Paris, à Lyon ou à Clamcy. Et l'on devient très vite sa propre idole. Puis on n'a plus la nostalgie des marronniers des coups, relais d'école.
Eh oui, bien sûr, c'était Sanseverino, les marronniers, aussi des Clamcy, hein, quand même, le pays des fauteurs de bois dans la Nièvre, c'est pas forcément le plus connu, mais voilà. Donc Sanseverino, et maintenant, eh bien, je vais vous emmener, on change de registre, on va en Anjou, oui, pour une très jolie fable. Qui va s'appeler Le Verger, la Mésange et la Chauve-souris. Alors, on est dans le Maine-et-Loire, on est entre Angers et Cholet. Nous sommes dans une commune qui s'appelle Saint-Georges-des-Gardes, pas très très loin de Chemillet. Derrière, c'est la Vendée, hein, c'est vraiment une portée d'arbalète. Hein, donc, on est pas loin. C'est tout ça pour dire que ce sont quand même des départements qui sont toujours très très dynamiques, aussi bien sur le plan agricole que sur le plan des PME. On a toujours vraiment une vraie vocation d'entrepreneur dans ces coins-là de la France. Et Pierre-Yves Girard, que je vais vous présenter, est le responsable responsable de la culture du verger de la Blottière. Voilà, et c'est ça qui nous intéresse bien. Vous rentrez là-dedans, on n'est pas dans un endroit où il y a du bio, hein, c'est pas ça. On est dans un océan de pommiers de 140 hectares, mais on a quand même réfléchi depuis un certain nombre d'années, on se dit on va quand même faire avec la nature, ce qui fait qu'on va limiter les produits toxiques, les produits phytosanitaires. Quand il y a une impasse, et ben évidemment on l'utilise, mais on essaye de faire le maximum pour limiter tout cela. Et donc nous entrons dans le verger et qu'est-ce que nous voyons dans le ciel ? Ah, des maisons, genre je sais pas, nonnette bleue charbonnière en compagnie de Pierre-Yves Girard.
Voilà, si on se retourne, on a, je pense, à peu près la montagne tutélaire du coin qui doit faire à tout casser 200 mètres d'altitude, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça, 210 c'est... mètres exactement. C'est point culminant de l'Anjou. Hein,
donc on ne prend pas de bouteille d'oxygène quoi, donc, pour monter là-haut.
Non.
On voit quoi, une chapelle ? C'est quoi alors ?
C'est la chapelle Notre-Dame des Gardes. La chapelle
c'est
de Notre-Dame
des Gardes.
Voilà. Okay. Donc le point culminant de l'Anjou.
Alors,
voilà.
Il y a la chapelle, il y a le relais de télévision et le relais pour les téléphones. Quoi.
C'est ça. Ouais.
Et vous êtes juste en dessous. Quoi.
Et on est juste en dessous, on a des vergers qui sont là-bas, on fait de la pomme de haute montagne chez nous.
C'est ça.
Voilà.
Et les maisons, je peux téléphoner tranquille.
Pour ça, c'est très bien. C'est formidable.
On les entend, c'est une merveille. Hein. C'est un chant permanent. Alors ça, c'est bien.
Nous, depuis, je dirais, les années 1990, on a travaillé autour de ce qu'on appelle la biodiversité. Alors, on est commencé avec des plantations de haies, des essences adaptées à la faune, quoi. C'est-à-dire à l'arrivée du puceron, à l'arrivée des choses comme ça, qui nous permettent, entre autres, d'attirer les prédateurs. Comment attirer des ravageurs précocement pour que les prédateurs soient là, pour qu'ils puissent arriver dans le pommier, qui arrive un peu plus tard au printemps.
Ah, ok. Voilà. Premier piège pour le prédateur, à partir donc des haies là, que vous êtes en train de replanter, là,
qu'on a encore planté pratiquement 700 mètres de haies cette année, donc on est rendu à 7 km hein, depuis les années 90.
Avec
quand même,
jouer une base de sureau, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça, une base de sureau, une base très forte de sureau. Hein, qui... Alors, l'intérêt du sureau, justement, c'est ça, c'est d'attirer le puceron précocement et de pouvoir... faire venir les coccinelles qui, elles, vont dévorer le puceron et qui seront là quand le puceron commencera à attaquer les pommiers qui arrivent 3 semaines en végétation après le sureau.
Alors on a commencé par là, mais je vois des nichoirs un peu partout là qui sont bien localisés parce qu'on les met sûrement pas n'importe où. Qu'est-ce que c'est ? Quels sont les locataires ?
Alors les locataires, ce sont des mésanges. Alors la bleue et la charbonnière, plus chez nous finalement la bleue, la petite, là, qui est très présente aujourd'hui. Alors comment on en est arrivé là ? C'est tout simple, hein. C'est un essai qu'on a fait d'ailleurs en collaboration avec le CPIE, hein, Monsieur Gabory. Là. Oui. Et donc on avait mis en place des nids à mésanges qu'on avait construits nous-mêmes à l'époque. Hein. Et on s'est rendu compte sur ce verger-là, où on en avait mis 7 à l'hectare, on avait une pression beaucoup moins forte de Carpocaps. Le Carpocaps, c'est un papillon qui vient pondre ses œufs sur le fruit, et de son œuf sort une larve qui rentre dans le fruit. Voilà. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait une pression beaucoup moins forte de Carpocaps. Et on s'est dit, mais si c'est comme ça, parce qu'il faut savoir qu'en 1990, on faisait 7 ou 8 traitements insecticides sur le Carpocaps. Hein.
D'accord.
La mésange nous a permis d'arriver tranquillement à la confusion sexuelle il y a 5 ans. Et nous permet aujourd'hui encore, donc aujourd'hui, on a près de 800 nids dans notre verger, hein, environ 7 à l'hectare. Hein.
C'est bien, ça volait de partout, là. Oui. Non, parce que ça se reproduit drôlement bien, une petite mésange.
Ah, ben, ça se reproduit bien, oui. Et ben, ça, je peux vous garantir qu'on a tellement ouvert de nids qu'on a vu des portées jusqu'à 9 petits. Hein. La particularité, c'est que le mâle et la femelle nourrissent les petits et vous avez un balai incessant. C'est-à-dire que quand la femelle nourrit, le mâle attend sur une branche à côté, rentre, la femelle sort. C'est impressionnant, impressionnant. Hein.
D'accord.
Et aujourd'hui, on arrive même, avec l'allègement des produits phytosanitaires, à avoir une deuxième génération de mésanges.
Oui.
Et ça nous permet de nous rassurer en quelque sorte, parce qu'on dit le milieu est forcément plus sain. Mmh. Sauf que cette génération, il n'y a plus que 3 ou 4 petits seulement. Comme il y a moins à manger, je pense qu'il y a moins de petits.
Non, voilà. Parce que dans tout ça, vous avez diminué vos produits phyto de combien ?
Alors sur le Carpocaps, grâce à la mésange et au système qu'on a mis de confusion sexuelle, on les a supprimés totalement. Confusion sexuelle, c'est la pose de baguettes hormonales, un arbre sur 3 dans tout le verger, qui diffuse... une hormone.
Ah oui, c'est là.
D'accord, oui. C'est ça. Voilà, c'est ça, là. Les petits bâtons rouges que vous voyez, là, ça diffuse une hormone femelle et le papillon mâle n'arrive pas à retrouver la femelle tellement il y a d'hormones qui sont dans le verger et ils ne peuvent pas s'accoupler. Donc, il n'y a pas fécondation.
Ah.
Donc, ils peuvent pas... Enfin, quand la femelle pond, c'est des œufs clairs.
Donc, c'est pour leur éviter de se rencontrer. Quoi.
C'est pour leur éviter de se rencontrer.
Et de se reproduire.
Mais, vous savez, on est dans la nature, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Donc, ils peuvent aller s'accoupler dans le champ du voisin et venir pondre chez nous. Le travail de la mésange, c'est de pouvoir, elle, se nourrir des papillons qui sont passés au travers. Quoi.
Oui, parce que les amoureux, ils y arrivent quand même.
Ils y arrivent toujours. Ça, je vous garantis qu'ils y arrivent toujours. Et puis, on a remarqué aussi qu'il n'y avait aucune incidence sur l'homme.
Attendez, c'est incroyable, le balai, parce que là, pendant que vous parliez, il y a eu déjà 3-4 allers-retours. Enfin,
Ah oui. Mais je vous dis, c'est réellement impressionnant. Moi, une maison, c'est 7 ou 800 tours par jour pour nourrir les petits. Hein.
Ah, c'est du...
Et 7 à 800 tours par jour. Hein, c'est, je ne les ai pas comptés. Bon, il y a de la bibliographie. Moi, je l'ai vu, le balai, ben, sur une heure, c'est déjà impressionnant. Impressionnant.
Nous avons nos mésanges, avec d'ailleurs le trou à la bonne dimension, hein, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop gros non plus.
Non,
voilà,
non,
juste
non,
ce qu'il faut. Oui. Mais elle se repose aussi un petit peu. Alors, la nuit, qui prend le relais?
Alors, c'est vrai. Et on s'est penché sur la chauve-souris, qui était présente naturellement dans nos vergers, mais dont on ne connaissait pas l'exploitation.
Mais qui voulait des milliers d'insectes.
Oui. On a installé une trentaine de nids qu'on a fait nous, et ensuite on en a acheté parce qu'en béton cellulaire, il faut que ça soit quelque chose qui soit chaud, quoi, avec du polystyrène. Et nous aide, c'est-à-dire ce que la mésange fait le jour, la chauve-souris le fait la nuit, donc un complément extraordinaire.
Bon, il y a encore un peu de réglage avec la chauve-souris.
Oui, il y a encore un peu de réglage, on n'est pas encore au maxi.
Alors je vois aussi donc, de l'herbe, hein. Vraiment les bandes enherbées entre les pommiers, et c'est aussi un choix là.
Ah, c'est un choix, et un choix délibéré, c'est d'abord pour un meilleur travail du sol, pour avoir de la matière organique, et puis ensuite pour éviter l'érosion. En même temps, on s'est rendu compte, bon, on a des impositions par rapport à des cahiers des charges, mais quand même, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de faune auxiliaire dans les bandes enherbées. Et aujourd'hui, on les fauche plus que 2 fois par an. Enfin, il y a 10 ans, on les fauchait 4-5 fois pour que ça soit toujours beau. On les fauche presque plus. Et pour pouvoir permettre à plein d'insectes, par exemple le puceron, il y a un puceron qui nous gêne énormément, qui est le puceron cendré, et bien si vous fauchez trop souvent, il ne va pas descendre dans le plantain. Si on laisse l'herbe, il va descendre naturellement et on va obtenir des résultats nettement meilleurs en fauchant moins.
Pierre-Yves Girard, on sait que la pomme fait partie dans le domaine de l'arboriculture, des plantes extrêmement gourmandes en pesticides divers et variés. Bon, on parle quoi en général d'une trentaine de passages
En passage fongicide pur et insecticide, on est sur une base plutôt de 15.
D'un point de vue compte d'exploitation, vous en sortez, et puis d'un point de vue image aussi.
Alors d'un point de vue image, c'est clair, on s'en sort. D'un point de vue exploitation, aujourd'hui, le fait qu'on soit amené à moins passer de traitement, à beaucoup moins à évoluer dans ce sens-là, nous oblige, nous, à passer énormément de temps à l'observation. C'est-à-dire que toutes nos parcelles, tout notre verger, sont systématiquement contrôlées une fois par semaine par une personne. Donc on a un temps de main-d'œuvre qui est un peu plus supérieur.
Pour détecter n'importe quelle maladie naissante.
On ne veut pas traiter à tout va. Ouais, donc on se dit qu'il y a des seuils, et ces seuils, on les respecte. Donc on passe toutes les semaines à regarder si on a des attaques d'araignées, des attaques de pucerons, et on ne traite que si c'est nécessaire.
Donc, merci aux mésanges, merci aux chauves-souris. Entretenez vos mésanges, hein. C'est formidable, formidable. C'est pas que joli, mais c'est formidable. Voilà, puis vous avez bien compris que ça boulottait quand même pas mal d'insectes. Ça fait le travail à notre place, c'est génial. Ça plaît pas aux prolifytosanitaires, mais c'est comme ça. Et il faut saluer le travail des CPIE, donc les Centres Permanents d'Initiation à l'Environnement de Loire-Mauge, avec Olivier Gabory, qui a donc étayé tout ce travail qu'il effectue avec différents agriculteurs, qui comprennent bien que ça évolue et que c'est l'intérêt absolument de tout le monde. Donc bravo au CPIE. Et puis le troisième volet, ce sera. Ben oui, c'est Nathalie Fontrelle, c'est ça, hein, avec l'actualité. Je me tourne vers Christophe Imbert. Ben, bien sûr, elle n'est pas loin d'ailleurs. Elle n'est pas loin, oui. Musique.
Big my pride. I know this was my time. She said the devil would want you back, and you never find love in an open hand. Shut your eyes so you see I'm dead. I know you'll always have this if you stay this mad. So when the water will take you back, and you never find love in an open hand. Shut your eyes and you'll see I'm dead. I know you'll always have this if you stay this mad.
Choisi par Jean-Baptiste Audibert sur France Inter, c'était Handshake, enfin, ça c'est le nom de la chanson, Poignée de main, interprétée par Tudor Cinéma Club. Une petite poignée de main là aussi, bah, elle vient d'arriver.
Les oiseaux dans la oui, charmille.
Oui, voilà, c'est joli, mais là, l'actualité de l'actualité de l'environnement, mais il faut l'abattre.
Mais non, il ne faut pas l'abattre. Bonjour Nathalie Fontrelle.
Bonjour Denis.
Voilà, et vos mésanges à vous, comment elles vont dans le jardin?
Elles sont magnifiques. Voilà, bon, elles ont un peu froid aux plumes en ce moment, mais
oui.
Bon.
Oui, on va s'y faire, puis vous les réchauffez avec beaucoup d'amour et de tendresse. Nathalie, dans l'actualité, nous avons décidé de revenir sur le débat CIGEO.
Oui, vous savez qu'il s'agit du stockage géologique des déchets radioactifs à la frontière de la Meuse et de la Haute-Marne.
Autrement
sans
peuplé,
doute. Hein.
Hein, c'est 7 habitants au kilomètre carré à peu près, ça.
8.
Oui. Ah, mais pardon. Ils sont reproduits en
temps. Il y en a même plus. Mais ce débat ne doit pas concerner que ces deux régions. Hein. C'est un débat national avec des enjeux qui doivent intéresser tous les Français.
En tout cas, c'est mal parti.
Oui, parce que la première réunion publique qui devait se tenir à Bure, où est implanté le laboratoire de recherche sur le stockage des déchets radioactifs, vous entendez,
eh oui.
Cette réunion a été annulée. Une centaine d'opposants ont empêché le président du débat public de s'exprimer en scandant « Bure, on n'en veut pas !» et en exigeant l'organisation d'un référendum sur le sujet. Et par ailleurs, les deux prochaines réunions publiques sont différées.
Et certaines associations d'opposants ont décidé de boycotter le débat public.
C'est le cas de Bure Stop. Écoutez l'une de ses porte-paroles, Corinne François.
Il faut savoir qu'en 2005, il y a eu un premier débat public d'ampleur nationale sur la gestion des déchets nucléaires. Les rares personnes qui ont participé en France, il y a eu 3000 participants aux réunions publiques, ce qui est quand même pas très représentatif de la population française, mettaient en avant le fait qu'il fallait, enfin, ils préféraient qu'on maintienne l'option de maintien des déchets en surface et qu'on continue à étudier cette solution de l'entreposage. Et en fait, ce qui est ressorti de ce débat public, c'est qu'on a mis le cap sur Bure, c'est-à-dire cap sur l'enfouissement, en laissant tomber cette option d'entreposage en surface. Donc ça veut bien dire que, quelque part, le débat public, il a fait émerger des inquiétudes, il a fait émerger une préférence pour le fait qu'on puisse continuer à étudier le fait de les garder en surface, sous nos yeux, et puis pouvoir les reconditionner quand ça fuit. C'était ça, en fait, qui ressortait. Et la loi n'en a rien retenu. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul site en France, c'est Bure. Et si on ne se bouge pas, on va enfouir les déchets nucléaires les plus dangereux.
On se disait, Nathalie, en écoutant cela, que c'était assez affligeant parce qu'il y avait peu de monde qui participait.
3000 personnes, c'est
ben
rien.
Oui, c'est pas énorme. Donc tout est décidé ou pas alors?
Pas tout à fait, répond la directrice de l'ANDRA.
L'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs.
Exactement, Marie-Claude Dupuis.
Nous nous inscrivons dans le cadre d'un processus défini par le Parlement. Alors, sur le principe, le stockage géologique, pour nous, a été décidé dans la loi de 2006 pour les déchets les plus dangereux et à durée de vie longue. Ceci étant, là, nous revenons avec un projet industriel concret qui doit s'implanter dans le cadre d'un territoire, la Meuse-Haute-Marne. Donc, toutes les questions méritent d'être posées, il n'y a pas de questions taboues. Certains reviendront sur l'opportunité. Alors, l'opportunité peut se poser en termes d'implantation en Meuse-Haute-Marne, ou sur même le principe général. Je sais qu'il y a encore des personnes qui ne sont pas convaincues, même si la loi l'a décidé ainsi. Ben, nous réexpliquerons pourquoi, c'est d'ailleurs un chapitre important de notre dossier de maître d'ouvrage, pourquoi un stockage géologique pour ce type de déchets.
Ce projet, c'est un crime contre l'humanité et les générations futures pour Michel Guérit. Vous savez qu'il préside l'association La Qualité de Vie. Mmh. Il a décidé de lancer un site internet en plusieurs langues, baptisé non pas CIGEO, mais CIGEO. Out.
Oui, out pour dehors, oust.
CIGEOUT est un site qui va essayer de rassembler tous les opposants à CIGEO. Là, c'est le premier niveau. Donc, c'est une forme de pétition. Le deuxième niveau, c'est voir le niveau d'engagement que ces gens-là veulent avoir pour recevoir des informations, éventuellement participer à des réunions régionales, des réunions nationales. Et le troisième niveau sont des gens qui sont prêts à aller beaucoup plus loin, prêts à écrire un cahier d'acteurs, prêts à subventionner l'opération, prêts à s'engager.
Ce site ne sera pas qu'en français?
Alors, il sera en français, anglais, allemand et japonais, parce qu'on considère que le problème de ces jeunes n'est pas qu'un problème national. Et il est bon qu'on puisse trouver d'autres idées, d'autres motivations, d'autres arguments à l'extérieur de l'Hexagone.
Et vous disiez, Nathalie, que ce projet doit concerner tous les citoyens français.
Et vous pouvez donner votre avis sur le site internet du débat, débatpublic-cigeo.org.
Voilà, vous le retrouvez aussi sur le site de CO2 Mon Amour, naturellement. Donc, si on comprend bien, nos parents, nous-mêmes, avons rempli la poubelle et ça va être à nos arrière-petits-enfants de s'en occuper, de la vider.
Exactement.
Mais écoutez, mes enfants, il faut bien que vous compreniez quelque chose. C'est primordial. Il faut qu'on se réveille. On est au bord du précipice. Et ça, il faut bien qu'on se le mette dans le tronc.
J'ai pas dit une chose.
Le capital, tu viens de le dire toi-même, le capital, c'est foutu.
Ah oui, ça, c'est fini.
Bon, la société de consommation, c'est foutu. Les voitures, c'est foutu.
Ah bah oui. Mais c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à la transition énergétique. Donc, autre débat, Nathalie.
Oui, avec une journée citoyenne organisée samedi dernier dans 14 régions françaises. Il y a plus de 1000 personnes quand même qui y ont participé, représentatives de la société française.
Bien sûr, donc pour donner leur avis en espérant que cela ne servira pas à rien.
Oui, et pour la ministre de l'Environnement, Delphine Batho, le plus frappant dans la conviction de ces Françaises, c'est...
Le lien qui est fait entre les enjeux environnementaux et les enjeux économiques, c'est-à-dire que pour les citoyens qui ont participé à cette journée inédite, la transition énergétique, c'est une chance. C'est un facteur de développement économique, ça va être un facteur d'innovation technologique, de réussite industrielle, de conquête aussi d'une autonomie énergétique pour la France, pour être moins dépendant des importations d'hydrocarbures. Donc le plus frappant, c'est ça, c'est la vision très positive et l'envie justement d'être incité, d'être accompagné plutôt que d'être sanctionné.
Quand vous voyez l'attitude d'un certain nombre de professionnels, je pense notamment au MEDEF, vous pensez que ça, c'est de nature à les convaincre ?
Mais je pense que ça permet de dépasser peut-être certaines oppositions ou certains clivages, que ça incite peut-être à ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire l'idée d'un compromis, d'un New Deal écologique, de faire de la transition énergétique un facteur de compétitivité et de réussite économique pour les entreprises et pour la France.
Et tout ça s'est déroulé sous l'œil un peu moins pessimiste du climatologue Jean Jouzel, car le changement climatique n'a pas été oublié par ce débat citoyen.
En tout cas, l'environnement tient une belle place dans les questions, et disons le problème de réchauffement climatique, à peu près 20% ont mis sur le haut du panier ce problème de réchauffement climatique. Je pense que c'est très bien. Et donc je pense que le réchauffement climatique est bien à sa place. Mais je dis aussi que d'autres éléments, même s'il n'y a pas ce problème de changement climatique, eh bien, il nous faudrait penser à une transition énergétique en France. Il y a beaucoup d'autres raisons également. La fin du pétrole et puis la compétitivité économique, disons tous les autres problèmes environnementaux aussi qui sont importants. Je crois que c'est aussi un développement économique de filières dans le domaine du renouvelable auquel les gens sont attachés. Car au niveau mondial, eh bien, ce sont vraiment les renouvelables qui devraient prendre une belle place à horizon 2050. Le dernier rapport du GIEC mentionnait une possibilité de 50% au moins d'énergie. Alors je parle bien cette fois d'électricité et de chaleur qui pourrait être produite par des renouvelables. Donc au niveau international, c'est important que la France, si elle veut développer sur ses filières, soit présente au niveau recherche, innovation, sur tous les volets du renouvelable, que nous allions sur le solaire, l'éolien, mais aussi les énergies marines par exemple. Il y a une belle carte à jouer et ça, je crois que les gens y ont été également très sensibles.
On entend bien le moteur, hein. Moi, je dis, on se rend bien compte qu'on n'est pas en panne, quoi. C'est un diesel. Donc, on ne sait pas, ça va durer. Oui, c'est ça. Oui.
CO2, mon amour, Denis Chesson.
Après le choc de compétitivité, le gouvernement lance un choc de simplification des règles administratives.
Oui, et cette semaine, les professionnels de la logistique...
Donc ça va concerner les entrepôts.
Oui, qui stockent aussi bien des produits alimentaires que du carton. Oui. Hein. Donc ces professionnels ont invité le député en charge de présenter un rapport sur cette simplification, Thierry Mandon.
Pour plaider leur cause ?
Et oui, notamment pour réduire les délais d'instruction des dossiers d'autorisation de construction et d'exploitation. Mmh. Écoutez le président de l'association de l'immobilier logistique, Claude Sanson.
Globalement, si on prend au moins les pays limitrophes à la France, hein, entre la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, on est dans des rapports qui vont de 1 à 4, ou de 1 à 5, ou de 1 à 6. Donc là où nous mettons, nous, 18 mois, des pays comme l'Allemagne mettent 2 à 3 mois pour donner les autorisations de construire.
Ce choc de simplification administrative, est-ce que ce ne serait pas contraire à un autre grand engagement de François Hollande, c'est la protection de l'environnement ?
Non, c'est absolument pas contraire. D'abord parce que les professionnels du secteur sont tout à fait responsables. Donc il faut quand même faire confiance aux entrepreneurs, hein, ils sont tout à fait responsables. Et puis que le fait de simplifier en amont ce qui va se passer n'empêche absolument pas le contrôle en aval une fois que c'est fait.
Oui, mais alors je prends un exemple. Imaginons, contrôle en aval, on se rend compte que vous avez détruit avec votre entrepôt une zone humide. On fait quoi ?
Ce que nous pensons, c'est qu'il est nécessaire que l'ensemble de ces études d'impact soit fait au moment où on décide qu'une zone va être réservée à faire de la logistique, mais qu'elle ne soit pas faite au moment où on doit construire le bâtiment sur cette zone.
Voilà, c'est bon. Dit. Autre grief des ouais. professionnels, leurs entrepôts sont soumis à la réglementation ICPE.
Autrement dit, installation classée pour la protection de l'environnement.
Oui, notamment pour limiter les risques d'incendie. Et ces professionnels estiment que la réglementation n'est pas nécessaire. Mmh. Elle représente un vrai parcours du combattant pour obtenir l'autorisation d'exploiter.
Il y aurait donc distorsion de concurrence par rapport à la majorité de nos voisins européens.
Ce serait donc mauvais pour le développement économique.
Et l'emploi ?
Oui, le discours, on le connaît bien,
ah
hein,
oui,
il est rodé. Hein.
On est chaud, là.
Mais pour les écologistes, il y a un risque de voir l'environnement sacrifié sur l'autel de ce choc de simplification.
Car notre député Thierry Mandon, en charge de proposer des solutions, il en pense quoi ?
Ils ont raison quand ils disent, finalement, pourquoi la France a un régime particulier par rapport à d'autres pays européens ? Et la première règle en matière de simplification, c'est de se dire, ce qui est possible à l'étranger, pourquoi ce n'est pas possible en France ? De ce point de vue-là, la réglementation logistique française, alors que la France a des atouts considérables pour être un pays très fort en logistique, me semble en effet simplifiable facilement.
Vous ne craignez pas le grignotage des terres agricoles, l'étalement urbain ?
Mais d'une certaine manière, les règles actuelles poussent à cet étalement. Je prends un exemple tout bête, la réglementation qu'on appelle ICPE conduit à ce que ces entrepôts soient très bas. Mais s'ils sont bas et si vous avez besoin de volume, vous prenez beaucoup de surface. Si vous permettez des entrepôts en hauteur, vous consommez moins de surface.
Alors les associations écologistes, les riverains ne vont peut-être pas l'entendre de cette oreille. Hein.
Sans doute, hein. Ils redoutent également une autre piste de simplification. Vous aurez 6 mois pour détailler les raisons d'un recours contre un permis de construire. Ensuite, tout sera figé.
Ouais,
donc, si au bout de 6 mois et un jour, vous découvrez que le projet que vous contestez, pour plein de raisons, hein, va en prime mettre en danger une espèce protégée, trop tard.
D'accord, bon, on vous tient au courant. Alors, nous allons sur ce pétillant morceau choisi par Christophe Imbert, notre réalisateur, en Suisse. Oui, car nous sommes un peu primaires parfois dans les illustrations. Le lac Léman, chère Nathalie, serait devenu une soupe de plastique.
Oui, c'est le résultat inquiétant d'une étude de l'École Polytechnique de Lausanne, parue cette semaine. Les chercheurs ont tamisé du sable, ils ont disséqué des poissons, analysé des fientes d'oiseaux. Partout, ils ont trouvé des microbilles de plastique jusqu'à 5 mm de diamètre.
D'accord. Bref, l'eau des lacs et des rivières est aussi pollué que celle des océans ?
Oui, Denis, malheureusement. Et à ce propos, tiens, je vous donne des nouvelles de l'expédition 7e continent.
Ah oui, le 7e continent, c'est cette île de plastique qui flotte dans le Pacifique Nord.
Hein. Exactement. Oui. Le bateau vient d'entrer dans le GIR, vous savez, ce gigantesque tourbillon de courant marin qui bloque les déchets dans cette région. Alors, il n'a pas encore rencontré le 7e continent, mais déjà des macro-déchets. Hein. Ils ont pêché 5 bouées, des restes de filets de pêche. Alors, si vous voulez suivre cette expédition...
Appétissante
et passionnante, c'est ce que je voulais dire.
Voilà.
Rendez-vous sur le site internet 7emcontinent.com et évidemment, on vous met tous les liens sur le site de CO2 Mon Amour.
Allez, on termine avec la promotion 2013 de la ville de Paris durable.
La ville a sélectionné 11 actions parmi 130 candidats. Il s'agit d'inciter les Parisiens à suivre leur exemple.
Ouais. Alors, on ne va pas tout détailler, hein, tous les projets, mais alors citez-en quelques-uns quand même, Nathalie.
Une copropriété du 15e arrondissement gère écologiquement ses espaces verts, limitation des tontes, recyclage des déchets sur place, suppression des produits phytosanitaires. Et puis, j'ai bien aimé aussi cette résidente du 13e qui a équipé la cour de son immeuble de 2 bacs à compost.
Oui.
16 foyers y jettent leurs déchets organiques et ça leur a permis de réduire de 40 kg par an le poids de leurs poubelles.
Alors, c'est intéressant parce que là, on est vraiment sur le local et en général, les gens trouvent quand même pas mal de satisfaction. Alors, vous pouvez retrouver les 11 promus sur le site promotionparisdurable.fr. Et vous retrouvez Nathalie Fontrelle dès demain, dimanche, oui, dans Planète
Environnement.
Voilà, faut être un peu tôt le dimanche matin, donc ouais. 7h55.
Mais c'est bon, moi, je suis levée, moi.
Bah, vous êtes debout,
bon, bah, exactement.
Voilà. Bon, allez, embrassez vos mésanges, Nathalie, on se retrouve très très vite. Au revoir, Nathalie.
À bientôt.
Voilà, et puis nous, on va embrasser nos poules maintenant avec Alain Souchon. Et après, je vous emmène au Québec, quatrième et dernier volet de cette émission sur France Inter.
Ces campeurs sous mes persiennes, mais comprenez-moi, c'est dur à voir quels sont ces gens sur mon plongeoir. Dans les poulaillers d'acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Ils disent, on peut pas aimer tout Paris, n'est-ce pas, y a des endroits la nuit sont plus bronzés que nos petits poules beaux. Mais comprenez-moi, la djé là-bas, c'est pas ce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, y a des taxis qui ont peur du noir. Dans les poulaillers d'acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Que font ces jeunes assis par terre, habillés comme des traits de misère? On dirait qu'ils n'aiment pas le travail, ça nous prépare une belle pagaille. Mais comprenez-moi, c'est inquiétant, nous vivons des temps décadents. Mais comprenez-moi, le respect se perd dans les usines de mon grand-père. C'est parce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi,
oui, mais moi aussi, je peux le faire absolument. Alors, après les pommes de Jean-Marie Pelt, après nos mésanges et nos pommiers, après cette actualité, quatrième volet avec Jean-Martin Fortier qui a traversé l'Atlantique, qui vient du Québec. Et alors vous venez en fait d'une commune qui s'appelle Saint-Armand au Québec. Alors peut-être tout de suite, première question, où est Saint-Armand, raconté?
Saint-Armand, c'est une heure au sud de Montréal. Oui. Sur la frontière du Vermont.
Oui.
C'est une des plus belles endroits pour faire du vélo. Ouh. Puis c'est les arbres, les érables qui tournent en couleur à l'automne.
Donc vous avez été baigné par ce paysage.
Oui, c'est magnifique. C'est vraiment un des beaux coins du Québec. C'est un des climats les plus chauds aussi. Donc il y a des vins, c'est la route des vins. Ma ferme est sur la route des vins. Ouais. Donc pour faire du maraîchage, c'est aussi un endroit idéal.
Parce que nous avons avec nous donc un maraîcher qui vient de sortir un formidable bouquin qui s'appelle « Le jardinier maraîcher, manuel d'agriculture biologique sur petite surface ». C'est aux éditions Éco-Société. Alors sur petite surface, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'actuellement, on voit bien que ça bouge un petit peu partout dans le monde, que ça bouge chez nous avec des AMAP, qu'il y a des micro-fermes et qu'on essaye de relocaliser les choses. Comment ça se passe au Québec?
Bien, nous, notre ferme, elle était un peu pionnière de ça. Là. Ça fait depuis 2004 qu'on est établi sur moins d'un hectare. Donc, notre ferme, c'est moins d'un hectare en culture. Quand on a commencé notre propre projet agricole, toutes les portes étaient fermées au niveau là, des aides puis au niveau des permissions de construction en zonage agricole, etc. Puis on a beaucoup forcé la porte pour défoncer ça, puis ça a fonctionné pour nous. Puis ça a été un peu la genèse de l'idée de diffuser ce qu'on faisait chez nous parce qu'on se rendait bien compte que quand une expérience positive arrivait, bien, ça pouvait aider d'autres à faire autant.
C'est-à-dire que par contagion, lorsque l'on montre, on va dire, un certain exemple, ça a fonctionné. Et autour de vous aussi, donc d'autres maraîchers se sont installés?
Oui, bien depuis ce temps-là un peu, puis... Notre ferme, les Jardins de la Grelinette, un de ses faits d'armes, c'est qu'on est rentable sur moins d'un hectare. Puis depuis la première année de notre établissement, Donc, parce qu'on utilise des outils manuels, parce qu'on n'a pas d'endettement, parce qu'on est dans une idée d'intensif, là, d'espacer les cultures le plus serré possible. Donc, on n'a pas de tracteur. Donc, on vient vraiment du milieu écologiste.
Oui.
Puis, on s'est rendu compte à travers notre cheminement que l'agriculture biologique, c'était vraiment un moyen concret de faire de l'écologie au quotidien. Ça fait 13 ans qu'on fait ça aujourd'hui.
Là. Vous avez quel âge aujourd'hui?
35.
Oui, c'est ça. Donc, vous êtes très, très vieux, bien sûr. Alors, donc, Jean-Martin Fortier. Non, ce qui est intéressant, c'est que vous tordez le cou à des idées reçues. C'est-à-dire que, ah ben oui, ça ne peut pas être rentable. Si, ça peut l'être.
Oui, ça peut l'être. Notre ferme, en 2008, elle a reçu un prix important par les gros bons de la Finance agricole du Québec qui analysaient nos états financiers, nos taux d'endettement, nos chiffres. Puis on a même gagné un prix pour la relève agricole. On cultive moins d'un hectare, puis c'était la ferme la plus rentable en termes de chiffres, de pourcentage.
Alors, qu'est-ce que vous faites comme légumes?
Bien, on fait des AMAP, comme l'équivalent, chez nous, on appelle ça les paniers bio, l'ASC, l'agriculture soutenue par la communauté. Mais en légumes, on en fait plus d'une cinquantaine, donc c'est diversifié. Puis finalement, on est dans un système très intensif où est-ce que c'est des outils manuels efficaces.
Vous êtes dans la ferme de la grelinette. On va rappeler que c'est un outil assez étonnant, la grelinette, pour le jardin.
Ouais, c'est une grande fourche en forme de U qui sert à ouvrir le sol sans le retourner. Donc, c'est un outil qui a été inventé par M. Grelin en France. Mm-hmm. Donc, nous, beaucoup de ce qu'on fait, ça a été inspiré aussi des vieux maraîchers français du 19e siècle.
Il y a des manuels de maraîchage, hein, c'est ça, du 19e.
Ah, c'est fantastique, ouais. Lire ça, c'est tellement d'actualité. Là. J'ai l'impression que je lis comment ça fonctionne sur notre ferme.
Ça s'est un peu amélioré quand même.
Hein? Oui, quand même. On a une belle qualité de vie, nous, sur notre ferme.
Ce que j'ai vu, vous avez une vie, quoi.
Oui, oui, on a une vie, puis c'est important, c'est un choix qu'on fait à chaque saison. Nous, quand on démarre la saison, on se fixe des objectifs, puis la qualité de vie, c'est souvent l'objectif numéro un. On a des enfants aussi, donc il faut concilier travail, famille, c'est important.
J'ai vu aussi que vous étiez inspiré d'un homme qui s'appelle Elliott Coleman, qui a été donc un des pionniers de l'agriculture biologique, mais aux États-Unis.
Oui, puis M. Coleman, nous autres, on est directement issus finalement là, de ce qu'avait... Lui avait publié un livre qui s'appelait « The New Organic Grower », un très bon livre. C'est le premier livre de maraîchage que j'ai lu. Puis M. Coleman travaille lui aussi sur moins d'un hectare avec un motocuteur commercial, avec la plupart des outils que nous, on utilise. C'est lui qui les a importés de Suisse, d'Allemagne ou qui les a conçus.
Les chiffres sont convaincants. L'an dernier, ils ont vendu pour plus de 100 000 $ de légumes. Surprenant, presque la moitié de ce qu'ils vendent revient en profit. Un rendement financier supérieur à bien des grosses fermes.
Alors, Jean-Martin Fortier, on ne va pas détailler tout, mais quand vous choisissez l'emplacement d'un site, vous vous inspirez de ce qu'on appelle la permaculture. Qu'est-ce que la permaculture?
Bien, la permaculture, c'est un mot qui est très à la mode ces temps-ci, mais en fait, nous, la permaculture, on s'en est inspiré beaucoup pour comprendre, analyser un site de production, puis comprendre tous les éléments, les interactions, puis d'essayer de faire un design de site qui est le plus intelligent, le plus logique, puis le plus biologiquement connecté possible. Donc, c'est difficile de définir le mot permaculture, mais nous, je pense que ce qu'on fait, ça s'inscrit définitivement là-dedans. Sauf que, nous, il faut quand même le dire, notre projet de ferme, t'sais, l'objectif principal, c'est d'arriver à en vivre. Donc, il y a vraiment un volet économique
qui est
important.
Ce que vont comprendre tous les agriculteurs qui nous écoutent.
Hein? Oui. Il y a souvent la philosophie. Pourquoi beaucoup de jeunes, surtout, qui veulent démarrer des projets agricoles, c'est une question de philosophie de vie, mais la rentabilité d'un projet, c'est important.
Bien sûr.
C'est ça qui en assure la viabilité. Puis pour avoir œuvré moi-même là, dans les premières années où la ferme était un peu moins rentable puis on avait des bonnes idées, puis aujourd'hui, où est-ce que là, on a concilié les deux, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une ferme qui est écologique et rentable qu'une ferme qui est écologique puis qui finalement...
Oui, qui ne tourne pas, quoi.
Qui ne tourne pas, ouais.
Alors, en tout cas, ce que vous voulez faire, c'est montrer qu'on n'est surtout pas dans un fond de cul-de-sac environnemental, social et économique. Et ça, vous le prouvez, quoi.
Nous, on le prouve, mais aussi plein d'autres fermes. Les AMAP, par exemple, le rapport de solidarité qui adhère à ça, qui prépaye leur récolte en avance, qui fournissent un appui direct aux producteurs. Ça, c'est majeur. Au Québec, c'est ça qui a permis à la petite agriculture de prendre son envol. Là. La première AMAP a été en 96. Puis aujourd'hui, on est au Québec, on est 5 millions, puis on a déjà 150, 200 fermes, puis on a plus que 15 000 citoyens mangeurs qui font partie de ça. Puis il y a vraiment un mouvement vers ça. Puis ça crée beaucoup d'opportunités pour des jeunes et des moins jeunes de démarrer leur propre projet agricole parce que les gens sont soucieux de savoir qui les nourrit. Puis là, je pense que la clé à partir de là, c'est d'avoir les bons outils, les bons équipements, le savoir-faire aussi, parce que faire du maraîchage diversifié, c'est pas comme faire juste des brocolis ou faire juste des choux. Hein, il y a toute une panoplie. Donc, l'idée du livre, c'était de faire un partage, parce que moi, je pense qu'un maraîcher chevronné, c'est la personne la mieux placée pour expliquer sa démarche, sa méthodologie. Puis dans le livre, c'est un peu ça. Là. C'est pas un survol exhaustif, c'est vraiment
pas
notre démarche.
Et en plus, c'est toujours très positif. Jean-Martin Fortier, aujourd'hui, quelle est la place, on va dire, de l'écologie, de l'environnement au Québec, donc avec ce pays, on va dire, multiculturel, mais en tout cas de culture, dans ce pays qui est aussi immense, où on a des réserves d'eau incroyables avec des barrages, avec l'hydroélectricité, mm-hmm. avec des forêts à perte de vue, avec aussi une civilisation qui est totalement urbaine, vous voyez, donc c'est tous ces mélanges-là, avec un rapport au sauvage qui est différent, avec les animaux entre autres. Comment ça bouge, la jeune société, par rapport à ces thèmes?
Bien, ça serait vraiment mentir, je pense, que si je dessinais un portrait très, très vert. C'est sûr qu'on a fait des gains, je pense. Là. Moi, je m'intéresse à l'écologie depuis 15 ans. Mais il reste encore beaucoup de chemin à faire parce que c'est toujours le développement économique qui semble vouloir primer sur tout ce qu'on fait.
Chers amis, le coup d'envoi est donné.
On est encore dans le même modèle où le gouvernement central va accaparer les retombées économiques principales. Et les régions sont laissées elles-mêmes sans ces retombées. Elles ont des retombées immédiates. Elles vont avoir un peu d'emploi.
Ce premier plan de développement sera réorienté dans les mois à venir. Mais une chose est sûre, la machine est lancée.
Là, il y a le fameux plan Nord, là, développer le nord du Québec. C'est très inquiétant. En même temps...
Rappelez-nous, le développement...
Oui, bien, c'est tout le territoire. T'sais, le Québec, c'est 5 fois grand comme la France. Le 5-6e n'est pas développé. C'était des espaces naturels au nord, un climat subarctique. Donc là, l'idée, c'est d'aller développer ça parce qu'il y a un réchauffement climatique, donc les terres dégèlent, donc on peut y avoir accès. Donc l'idée, c'est d'aller miner, prospecter là, chercher du pétrole, faire tout le bazar, quoi. Et ben, les communautés autochtones sont mobilisées de mieux en mieux. Puis y a vraiment un groupe de citoyens, un mouvement citoyen qui est aussi de moins en moins dupe. Sauf que c'est pas gagné d'avance, parce que les gens sont sensibles à l'idée d'avoir un emploi.
Alors, on est tous un tissu de contradictions, hein. C'est jamais très, très simple. Et puis aussi d'obligations que l'on doit résoudre.
Mais les réseaux sociaux, des émissions comme la vôtre, ça a vraiment la cote au Québec. Les gens aussi réalisent qu'on a une belle nature au Québec, qu'il faut la respecter, il faut la sauvegarder. Mmh. Montréal fait des grands pas en ce sens-là. L'agriculture urbaine, il y a un mouvement très fort. Ça, c'est bien. Les arbres, les ruelles, les gens, surtout les jeunes, ils veulent se réapproprier les ruelles, planter des arbres au milieu de la ruelle. J'adore. Moi, je vois que ma génération et celle qui, j'espère, me suit, on est vraiment dans une idée de on veut moins dénoncer, mais plus construire quelque chose qui, finalement, tu sais, est-ce qu'on peut vraiment être contre l'écologie, là? Tu sais, c'est... Il me semble que c'est la base, puis c'est tellement beau la nature, il faut savoir être avec.
Ouais, être lié
avec elle. Être lié, ouais, avec elle, ouais.
Jean-Martin Fortier, qu'est-ce qui vous anime et qui vous rend quand même optimiste aujourd'hui?
Ben moi, mon enthousiasme vient probablement de mon métier. J'adore ce qu'on fait. Je trouve que de vivre sur une ferme, d'être avec mes enfants puis ma femme dans un milieu naturel à tous les jours, puis d'arriver à en vivre, ça me stimule. Je suis heureux. Là. J'ai passé un mois à tourner justement pour en parler, puis je suis revenu chez nous dans mon petit pays, sur ma ferme. C'est tellement beau en ce moment au printemps, mais aussi de voir tout l'enthousiasme qu'il y a autour de l'agriculture. C'est vraiment, il y a un mouvement. Là. Aux États-Unis, c'est très, très avancé. Au Québec, ça pousse. Puis là, j'ai visité la France quand même assez, pas partout, mais ça pousse. Puis les jeunes, puis les moins jeunes, ils veulent s'établir en agriculture, ils veulent faire des retours à la terre. Puis je pense que ça va être différent de la dernière fois où est-ce que, bon, c'était un semi-échec. Là, il y a vraiment une population qui est mobilisée pour encourager une agriculture paysanne, pour la supporter. Puis moi, je suis très optimiste de tout ça. Je trouve ça super excitant.
Alors, je vous renvoie donc à ce livre de Jean-Martin Fortier, Le jardinier maraîcher. C'est aux éditions Éco-Société. On vous souhaite le meilleur. Merci, Jean-Martin Fortier.
Merci beaucoup, Denis, de m'avoir reçu à ton émission. Puis au plaisir peut-être de se voir sur la route des vins en vélo au Québec, chez nous.
Eh bien, sur place. Hein? Ouais. On va venir. Ben oui.
Super.
Eh oui, super. Merci à Sandrine Laurent, à Fabien Lallez à la technique aujourd'hui, à Stéphane Combe, notre assistant, à Christophe Imbert qui réalise l'émission, à Albert Houck, homme aussi du Maine-et-Loire, comme les mésanges et comme les pommes, à Jean-Baptiste Audibert, à Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. La semaine prochaine, ça va être une ronde de sujets complètement différents. On parlera d'OGM avec Frédéric Danhuy qui a sorti un ouvrage. Je vous emmènerai sûrement dans l'Aubrac à la découverte des narcisses. Il y aura des sujets économiques, des sujets avec des jeunes. Voilà, donc tout ce que nous aimons dans cette émission. Possibilité pour vous, bien sûr, de la réécouter, de la podcaster à l'envie. Demain, ce sera à l'Atelier du Mont-Petit-Loup à 19h54 après les petits bateaux. Dimanche, ne loupez pas, hein, Alain Bougrain-Dubourg, Vivre avec les bêtes, ça c'est à 15h. Et puis tenez, j'ai un ouvrage qui est très bien qui s'appelle Des jardins et des hommes aux éditions du Cherche Midi, avec donc un abécédaire, l'art des jardins, la biodiversité, zen, et c'est très très bien fait. Dans quelques instants, Clara Dupont-Monod vous attend où cela ? Eh ben, elle frétille, elle pétille d'impatience. Elle est à Lyon avec ses chroniqueurs non moins impatients, Gilles Auré et Alexis Lacroix. Ce sera donc pour Clara et les Chics Livres. Je vous souhaite un excellent week-end. France Inter, il est 15h15. Dominique Delarroix, c'est à vous.